Merci, je serai aussi succinct que dans mes autres présentations. Vous avez certainement lu Pierre Bergougnoux. Il est écrivain, il est sculpteur, il est romancier, il est aussi l'auteur d'un petit livre. D'un petit livre, Le style comme expérience, que j'ai ici, que je relis souvent, que j'aime beaucoup. Je faisais une allusion tout à l'instant à la lumière du Sud-Ouest. Je la faisais avec prudence parce que entre Brive-la-Gaillarde et Urte, il y a quand même une certaine distance. Mais Pierre Bergougnoux m'a rassuré. Il m'a dit oui, absolument. Il y a une solidarité, ou en tout cas une solidarité lumineuse du Sud-Ouest. Je rappelle d'ailleurs que c'est dans le journal L'Humanité et non pas dans Incident que le texte La lumière du Sud-Ouest a paru pour la première fois, puisque tout à l'heure il a été cité. Et je vous donne la parole.
Je vous remercie. Il faut appuyer sur le... Ah oui, il y a une lumière qui est allumée. Oui. Alors, j'étais élève de Barthes il y a 1 million d'années. J'ai été l'élève de Barthes, virgule, il y a 1 million d'années. Ça marche. Et je peux bien le dire maintenant. La première chose qu'il m'a demandé, c'est « Vous êtes du Sud-Ouest ?» Alors, avec le nom à coucher dehors, dont je suis affublé, bon, c'était pas tellement difficile de deviner. Alors, il a ajouté « Vous n'êtes pas positiviste, au moins ?» J'ai dit non. Et il a ajouté « Nous allons travailler ensemble. » Voilà. Je donnerai tout pour remonter le temps à la source. Alors Barthes aurait été l'enfant de son siècle, le 20e, le siècle des loups, a-t-on dit, ou des naufrages. Le siècle des extrêmes, selon l'écrivain britannique Eric Hobsbawm. Si ça ne marche pas, vous me dites. Bon. Le siècle de l'explicitation, pour reprendre la formule d'un philosophe allemand, ce qui est un pléonasme. Barthes aurait essuyé, je pense, la plupart des maux du siècle dernier. Il aura vivement contribué, à mes yeux, à l'embellie de 10 ans qui séparent ces deux sombres moitiés, et il n'en aura pas vu la fin. Comme 1 250 000 de ses petits contemporain, il est orphelin de père avant même d'avoir atteint sa première année. À 18 ans, il contracte la tuberculose, qui a été, avant le sida, l'épidémie du XXe siècle. À ces mots qu'on peut qualifier de génériques ou de nationaux, s'ajoutent deux particularités. Une origine provinciale, la pire qui soit, ce n'est pas moi qui le dis, c'est Stendhal à l'occasion de ses voyages en France. Et enfin, le traitement pénal au siècle dernier de l'homosexualité. C'est porteur de 4 lourds stigmates que Barthes a abordé son siècle. Celui que le même Eric Hobsbawm fait commencer en 1914, le 3 août. Et s'achever en 1989, en novembre, lorsque tombe le mur de Berlin et que le socialisme réel, qui était l'espérance du XXe siècle, s'autodétruit. Enfin, c'est un accident de la circulation, autre fléau moderne, qui emporte Barthes prématurément, brutalement, à 64 ans. Il n'aura pas eu son jour. Il n'y a rien, enfin à mes yeux du moins, de paradoxal à supposer que ce sont les propriétés négatives dont il était affecté qui ont prescrit à Barthes une trajectoire atypique, des vues profondément neuves et une œuvre qui compte puisque nous sommes là pour l'évoquer. Alors pour reprendre une formule de Pierre le Pape, la France est le pays de la littérature. L'expression réfléchie de l'expérience appuyée sur la lettre, à quoi on peut considérer qu'elle s'apparente. Avoir avec deux fins, l'un objectif, c'est l'éveil extrêmement précoce d'un État fortement centralisé. Un autre mot d'un philosophe allemand, c'est toujours un pléonasme, la France est ce pays où le moindre rat est policièrement administré. La dimension subjective, c'est l'éveil de l'individu conscient de soi. Il est né à la fin du XVe siècle, au début du XVIe siècle. Les trois écrivains du premier rang, des trois premiers États-nations de l'histoire, des trois Léviathans, en ont témoigné, chacun dans sa langue. Ce sont Cervantes en Espagne, William Shakespeare en Angleterre et Michel de Montaigne en France. L'État, c'est cet organe qui a le monopole de la violence physique légitime sur un ensemble territorial intégré. Nous sommes des agents plus ou moins conscients de nous-mêmes, plus ou moins rationnels, mais tous frottés de littérature parce que nous sommes, depuis un demi-millénaire, des sujets d'État. La littérature fait l'objet d'un enseignement spécial depuis ce temps-là. Dans les collèges de jésuites, d'oratoria, dans ce qu'on appelait les petites écoles jansénistes où l'on parlait français, où l'enseignement se faisait en français. Dans les lycées napoléoniens, puis républicains, et à l'université. Les enfants des fractions privilégiées de la société française se familiarisent avec cette version hautement élaborée de la vie qu'ont livré d'abord les ressortissants de l'aristocratie foncière. J'ai cité Michel de Montaigne, j'aurais pu parler de Pierre, de Ronsard, de René Descartes, du Perron, jusqu'à François René de Chateaubriand, qui va entonner le chant du cygne de la noblesse terrienne. Lorsque la classe d'origine urbaine, comme son nom l'indique, la bourgeoisie, s'empare du pouvoir, au lieu d'abandonner au vieillage, au temps féodaux, société d'ordre, cette forme d'expression qui double, escorte, éclaire l'existence, elle la reprend à son propre compte. Mais alors, naturellement, la thématique change. La vie publique en France est imprégnée de culture littéraire. C'est le seul pays, je crois, où elle est constituée, presque sans discontinuer, la condition nécessaire et, mais non suffisante, d'une carrière politique de haut vol. Alors, je ne remonte pas trop loin. De Gaulle parlait le langage suranné et pompeux qu'il jugeait congru à la grandeur du pays et peut-être à la sienne propre. Son dauphin pour l'édification de la jeunesse s'appelait Georges Pompidou. Il était agrégé des lettres et il a laissé une bonne anthologie de la poésie française. Le successeur de Pompidou, c'est M. Giscard d'Estaing, qui n'a pas hésité à briguer un siège sous la coupole de l'Académie. M. Mitterrand aimait à se faire photographier avec au livre, aux mains, le dernier livre de Julien Gracq. Ça fait 20 ans très précisément que les présidents de la République française ont adopté un autre langage sur lequel je ne me prononcerai pas. Mais je laisse aux politologues le soin de nous dire de quelle profonde métamorphose de la conscience collective ce changement témoigne. Alors, par les faits de la division du travail et de la séparation des tâches matérielles, pratiques, manuelles d'un côté, intellectuelles et symboliques de l'autre. Le corps des professionnels qui étaient chargés de l'enseignement de la littérature a accompli longtemps le tour de force de la rendre insipide, terne, à peu près inintéressante. Ceux d'entre nous qui accusent un certain âge gardent, à quelques très rares exceptions près, un assez triste souvenir des cours qu'on leur a dispensés au collège, au lycée, à la faculté. Ils se ramenaient à quelques généralités sur l'époque, suivies du commentaire vétilleux, myope, fastidieux de morceaux choisis hétéroclites et muséifiés. Pour le dire d'un mot, je peux bien le dire, j'ai l'âge qu'avaient ces vieux messieurs que j'ai écoutés avec patience, je trouve. Pour dire d'un mot, les textes qu'on nous présentait ne nous parlaient guère, parce qu'on ne voyait pas que ceux qui étaient chargés de nous les expliquer en aient tiré quoi que ce soit qui ajoute à leur vie. Leurs propos, leurs actes ne tiraient nul rehaut, éclat, tranchant, liberté de la connaissance plus ou moins approfondie qu'ils en avaient. Et alors, à quoi bon pareille connaissance ? Il y a autre chose. J'ai dit, pour commencer, notre histoire est celle d'un État-nation fortement centralisé, avec une capitale rayonnante et un vaste arrière-pays provincial. Or, pour peu qu'on y réfléchisse un court instant, la littérature a toujours reflété des vues, des aspirations, des usages, les visages, les dilemmes, le langage, d'abord de l'aristocratie foncière parasitaire, et elle a toujours renvoyé aux régions riches, à ce qu'on appelle les bonnes terres de l'économie politique. Le reste du pays et ses habitants étaient dépourvus, sont restés pendant une éternité dépourvus d'écho dans l'espace sacralisé qui s'ouvre entre les plats de couverture des ouvrages imprimés. La première chose à faire aurait été de signaler le fait aux intéressés. Ceux qui cherchaient, sans jamais le trouver, en ce lieu, un écho de la vie qu'ils avaient. Les éclaircissements qu'un texte doit offrir aux vivants qui le lisent, et si tel n'est pas le cas, il ne mérite pas une heure de peine. Mais je n'ai pas souvenir qu'on ait rien dit aux réprouvés, aux absents des livres, aux gens sans reflet dont j'étais. Et si tel avait été le cas, je crois que je me le rappellerai. Alors il est certainement de la nature de tout enseignement de banaliser son contenu. Par suite de son isolement, de la séparation, de la neutralité affective qui lui sont inhérents, l'action pédagogique tend à éclipser le caractère vital, senti, troublant, des faits qu'elle tend à porter dans son ordre, qui est second, explicite, rationnel. J'ai trouvé sous la plume de Hume, qui était un philosophe, non pas anglais, mais écossais, ce qui est tout à fait différent, une formule aussi avaricieuse que judicieuse de la raison. Qu'est-ce que la raison ? Et Hume répond simplement, c'est un jugement calme. Et tout enseignement se doit de porter dans cette sérénité qui est celle de la raison, les faits, si terribles soient-ils, que l'on peut envisager. Mais à cette loi transhistorique de toute pédagogie, se sont ajoutés les faits tragiques qui ont marqué, y compris en France, surtout en France, le siècle dernier. La plupart de ceux qui étaient prédestinés, qui avaient vocation à prolonger la tradition savante, critique, lettrée, qui escorte, qui illumine notre histoire depuis 500 ans, ont été pour la plupart anéantis avant l'heure. C'est ce que déplore par exemple Marcel Mauss, lorsque, en 1933, il dresse un tableau de la sociologie en France depuis 1914. Il écrit « Peu de groupes de chercheurs furent plus atrocement éprouvés que le nôtre par la guerre. Nous ne restons qu'une poignée, réchappée du front ou usée de l'arrière. » Et l'article intitulé « In Memoriam » du même Marcel Mauss s'apparente au long martyrologe des jeunes sociologues tués au combat à la tête de leur section. Pourquoi ? Parce qu'ils étaient officiers. Alors on peut lire dans le manuel d'instruction de l'infanterie de 1914, un officier ne court jamais. Une ombre est descendue sur ce pays dès la fin de la guerre. Proust meurt en 1922, je crois, et ça n'est qu'au tout début des années 50 que paraissent les premiers textes de Beckett qui disent quoi ? Mais l'épaisseur des ténèbres. Telles sont les raisons. Les unes, structurelles, durables, la pédagogie. Les autres, très précisément, historiques, conjoncturelles, qui expliquent que l'enseignement de la littérature ait pu la vider à peu près de l'enseignement qui s'y attache lorsque les gens de ma génération sont arrivés. Alors, qu'est-ce qui a pu la réactiver ? Il y a cela plusieurs raisons, plusieurs choses, et la première se situe à peu près aux antipodes de la vie culturelle, quoi qu'elle est conditionnée, à mes yeux, son aggiornamento. Ce fait, c'est la disparition de la petite paysannerie. Alors, elle forme le corps de la population depuis la Gaule romaine, depuis 2000 ans, et le collectif de travail. Elle disparaît au moment où, par exemple, se disloquent les empires coloniaux. La conséquence, c'est que c'est la fin de ce qu'on appelle les marchés protégés, l'économie de traite. Les matières premières à bon marché, la main-d'œuvre indigène surexploitée. La conséquence, il n'y en a pas 36, il faut affronter la concurrence mondiale. Et le critère, c'est la productivité. Or, pour élever la productivité, il n'y a pas 36 solutions. Il faut améliorer la qualification professionnelle des producteurs, donc ouvrir largement les portes de l'enseignement secondaire et à quelques degrés de l'enseignement supérieur. Alors, des chiffres. En 1914, 1% de la population accède au baccalauréat. Et il y a 10 000 étudiants. Quand j'entreprends des études supérieures, nous sommes déjà 600 000 dans l'enseignement supérieur. Aujourd'hui, 2 300 000 étudiants en France et 80% d'une classe d'âge accèdent au baccalauréat. Alors, les nouveaux arrivants, dont j'étais à un demi-siècle d'ici, ne pouvaient plus trop s'accommoder de routines qui n'avaient dû de durer qu'à l'immobilité persistante des structures économiques, donc sociales, d'une France colonialiste, massivement rurale et lourdement patriarcale. Je pensais à eux en venant, au drame de ces enseignants de la vieille école qui nous ont fait face à la fin de leur carrière, qui ont été malheureux, à qui nous avons fait la vie difficile, que nous avons rendu malheureux. Ils étaient confrontés à un public neuf, surabondant, contestataire, comme on disait, qui entendait qu'on lui parle de ce qui se passait, des prodigieuses années 60. Il est difficile pour ceux qui n'ont pas connu ces heures d'imaginer quelle effervescence les a caractérisées. Ce sont les prémices de l'abondance après les privations de l'après-guerre. Les livres de poche sont partout. Le volume simple coûte 2 francs, c'est-à-dire une heure de travail non qualifiée. Le double, 3 francs 40. Le triple, 6,70. Ça me reste. C'est au mois de juillet de la dernière de ces années qu'on a marché sur la Lune, pour reprendre le titre du journal Le Monde, le 21 juillet 1969. Les vieux professeurs sont dépassés par le cours des choses. Et ceux qui peuvent peut-être répondre à l'appel de ces temps neufs seront des hommes nouveaux, autres, dotés de propriétés qui étaient jusqu'alors inopérantes ou négatives, mais que l'heure qui est à la négation, à la contestation, à l'ouverture, eh bien, rend soudain efficiente, actuelle, positive. Avant d'en venir à Barthes, le professeur à la Sorbonne, au début des années 60 encore, est plutôt d'origine parisienne et bourgeoise, ou alors c'est un fils d'instit de province. Il est normalien, agrégé des lettres, il a soutenu une thèse de doctorat sur un écrivain classique, puis gravit le cursus dans l'ombre d'un aîné, doté de caractéristiques rigoureusement similaires, dont il occupera la chaire pour y tenir des propos rigoureusement identiques le moment venu. C'est dans cette catégorie que se sont recrutés les plus venimeux des détracteurs de Barthes, des gens malheureux. Je me demande toujours lequel des stigmates nombreux dont Barthes est chargé et que j'ai rapidement dénombré pour commencer, l'a emporté dans la détermination de cette carrière singulière qui fut la sienne. Mais peut-être qu'il n'y a pas lieu de choisir quel résulte de leur action combinée. Alors j'ai commencé par celui qui m'est familier. L'origine aquitaine, Barthes est né à Urte, dans les Pyrénées-Atlantiques. Alors pour l'édification des Franciliens, c'est les malheureux immatriculés 64 qui se traînent à 30 à l'heure sur la voie de droite du périph' extérieur sous les sarcasmes et les lazzis des indigènes. J'essaie d'en rire aujourd'hui, mais sachez que c'est une situation extrêmement déplaisante. Puis on apprend, et puis le jour vient où on agonise d'injures les ploucs avec des immatriculations pareilles qui se traînent à 30 à l'heure sur la voie de droite du périph' extérieur. C'est le fameux maléfice repéré par Stendhal. Et c'est vrai, je veux dire que des noms aussi éclatants que ceux de Montaigne, auxquels j'ai fait allusion, ou de Montesquieu, que le vignoble bordelais ne doivent pas faire illusion. C'est une région pauvre, excentrée, et cela se voit à deux choses. À l'agrément extrêmement trompeur de la polyculture vivrière. Rien de beau comme ces campagnes du Sud-Ouest. Oui, mais quand vous tombez sur des régions de polyculture, ça veut dire qu'on a encore une économie d'autosubsistance, au lieu de travailler pour le marché en vue du gain pécuniaire. La deuxième chose, c'est la persistance de l'Occitan. Je vais me vanter un petit peu, mais pas trop, je suis capable de soutenir une conversation en Occitan. Le gascon avait cours et l'occitan avait cours. Lorsque j'étais enfant, dès qu'on s'écartait de la sous-préfecture natale, on entendait résonner des sons qui n'étaient pas loin sans faller ceux du français, c'est-à-dire du dialecte de l'Île-de-France. Nous savons que Montaigne parlait gascon à ses manants, lesquels ne parlaient que le gascon. Il les traitait d'ailleurs de badin, de veau ou de pasquin. Mais lorsqu'il s'est agi de porter noir sur blanc sur le papier ses expériences, ses essais que, premier de sa lignée et de l'humanité occidentale, et peut-être de toute l'humanité, il faisait, c'est, je cite, l'édit de Villers-Cotterêts qui est de 1539, c'est en langage maternel françois, je pense qu'il devait parler à peu près comme ça, qu'il les a dictés, il n'écrivait pas les dictés. Voilà. Du fait de ces raisons de fond, la médiocrité des sols, la faiblesse des rendements, la persistance de dialectes régionaux, les probabilités d'entreprendre des études supérieures sont faibles. Il y a de surcroît une homologie entre les structures sociales et la structure des disciplines. Par exemple, on a noté que les enfants des provinces ou des fractions inférieures de la population se tournent plutôt vers les études basses, c'est-à-dire appliquées. Par exemple, la géographie, la géologie, les sciences naturelles, la grammaire des dialectes. La chance de Barthes, ça a été peut-être de quitter d'assez bonne heure Urte et puis Bayonne pour Paris. Bon, ce sont des choses qu'il a dites dans ses écrits, dans son Barthes par lui-même. Il habite rue Mazarine, dans un joli quartier du 6e arrondissement. Il fréquente le lycée Montaigne, et puis la fleur des lycées Louis-le-Grand, Henri IV ou Louis-le-Grand. Puis la Sorbonne. Il échappe à l'atmosphère confinée, étouffante, des sous-préfectures du Sud-Ouest. Alors, si vous voulez en faire une idée un peu précise, eh bien, il n'est que de lire ce qu'en dit Lévi-Strauss au début de « Triste tropique ». Et puis, la correspondance qu'il adresse à ses parents de Mont-de-Marsan. Alors, ça se trouve dans les Landes, c'est 40 cette fois-ci. Bon, on voit à peu près, effectivement, à quel point pouvait être somnolente l'atmosphère de ces mondes où rien ne s'était jamais, ni peut-être ne se passerait jamais. Donc, Barthes sort du Sud-Ouest. Il y a autre chose qui est pour le coup une expérience collective. Son père est tué dès l'automne, le début de l'automne 1916, dans un combat en mer du Nord, puisque le père de Barthes est officier de marine. Alors, beaucoup d'hommes qui avaient l'âge de Barthes, je pense bien sûr à Claude Simon, je pense à Henri Thomas, mon père était orphelin de père, ont témoigné du vide que, pareil, disparition peut créer. Quel trou ça peut laisser dans une biographie. Or, Barthes s'est montré extrêmement discret à ce sujet. Il a écrit, j'ai noté ça, toujours dans le Barthes par lui-même, un effleurement, une gratification presque silencieuse par le relais maternel. Je trouve que c'est extrêmement peu, compte tenu du fait que, à mes yeux, c'est quelque chose d'extraordinaire pour un garçon, je ne parle pas pour les demoiselles, que de grandir seul, sans précédent visible, contraignant, plus ou moins écrasant, enfin la figure du père freudien dans Totem et Tabou, non, il n'y a rien devant. Juste la gratification silencieuse d'une mère. Bon, la troisième atteinte, c'est rester une hantise jusqu'à la fin du deuxième tiers du siècle dernier. Thomas Mann a consacré à la tuberculose son énorme montagne magique. Tous les gens de ma génération, y compris les demoiselles, portent en haut du bras gauche, je ne vous le montrerai pas, je ne vous la montrerai pas, la quadruple et très laide cicatrice que laissait la scarification du bacille bacille calme. C'est le nom des deux types qui ont mis ça au point, Guérin, Calmette. Bon, donc on a tous ça, on est les quatre galons de commandant ici. D'accord, mais on est vivant. Les gens de ma génération vivent. Alors, elle a pesé très lourd, cette maladie, sur la vie de Barthes, en particulier sur les années de formation. Alors, j'ai fait des comptes. Dans la biographie d'une page que vous trouvez à la fin de Roland Barthes par lui-même, 10 des 29 dates, donc c'est-à-dire plus du tiers, se rapportent à la tuberculose. Par exemple, c'est le 10 mai 1934 qu'il découvre avec l'horreur qu'on imagine qu'il crache le sang. Vous toussez, vous rendez compte que votre mouchoir est plein de sang. C'est en quelque sorte votre arrêt de mort qui vous est notifié dans la fleur de votre âge. Il mentionne ses deux séjours en sanatorium dans l'Isère. Le pneumothorax ectopleural droit d'octobre 45 en 46. Donc 12 ans après que la maladie s'est déclarée, il est encore en convalescence à Paris. Je pense que la tuberculose a imprimé à son existence et à ses études un tour singulier et extrêmement profitable. Ce serait peut-être la contrepartie positive de cette affection épouvantable. Bien sûr, elle interrompt ses études. Elle lui a interdit de les conduire jusqu'à leur terme, par exemple jusqu'à l'agrégation qui lui aurait permis d'exercer en France métropolitaine et pas à l'étranger, dans un lycée ou à l'université, avec éventuellement ce que cela implique de conformité à des programmes académiques définis par le ministère et le rectorat, donc d'académisme. Faute des titres requis, Barthes enseigne à l'étranger. C'est un espace ouvert, flottant, favorable aux rencontres inopinées. Par exemple, celle de Julien Algirdas Grémas, qui sera son collègue à l'école pratique des hautes études en sciences sociales. Non content d'assister au cours de Barthes, j'assistais au cours de Julien Algirdas Grémas, qui parlait le français avec l'accent des espions russes des films français des années 60. Mais quand on avait réussi à faire abstraction de ces intonations un peu drôlatiques et qu'on écoutait très précisément ce qu'il nous disait à propos de l'analyse structurale du sens, on avait les yeux légèrement exorbités et les cheveux qui se dressaient de ravissement sur le crâne. On a eu ça nous a été offert sur un plateau d'argent, non, d'or. Grémas. Ça n'est pas tout, il fréquente les sanatoriums qui sont, comme on peut le voir dans la montagne magique de Thomas Mann, des abrégés du monde, des microcosmes sociaux. Et ils ont contribué non seulement, je crois, à cicatriser le parenchyme des poumons de Barthes, mais je pense qu'ils ont aussi fortifié puissamment son esprit. C'est à l'occasion d'un séjour en Isère qu'il croise l'étudiant trotskiste, dont j'ai oublié s'il dit ou non le nom, qui lui suggère, toutes affaires cessantes, de lire Marx. Or, si Barthes n'avait pas lu Marx, il n'aurait jamais écrit les mythologies, c'est évident. En outre, les cures de soleil et surtout de silence auxquelles sont assujettis les tuberculeux lui ont permis de découvrir, de lire des travaux d'avant-garde, non, Saussure est mort en 1913, mais enfin, des travaux relativement récents, ceux qui, à la même époque, inspirent les pionniers de la recherche dans les sciences sociales, Claude Lévi-Strauss en particulier, dont j'ai parlé. Il y a un quatrième trait dont Barthes, au siècle dernier, ne pouvait parler ouvertement dans son autobiographie, c'est l'homosexualité. Pour prendre la mesure de ce que cela pouvait être, il n'est que de se rappeler l'opposition toute récente au mariage pour tous. Les forces profondes, noires, redoutables, qui sont encore là, tapies dans l'ombre, et qui dominaient encore la scène il n'y a pas si longtemps. Vous savez que Barthes disait que le fond de son tempérament, c'était la vulnérabilité. Ô combien on est orphelin de père et de guerre, on est tuberculeux, on sort du sud-ouest, et on sent contre soi ces forces redoutables, féroces, haineuses, inexpiables. J'ajouterai un cinquième motif d'inquiétude, celui qui s'attache au simple fait de chercher, c'est-à-dire de s'écarter du sens commun. On est seul. Un mot de Bachelard, qui vivait à peu près à la même époque, un peu plus tôt. Le vrai, c'est toujours une erreur rectifiée. Alors Barthes, bien sûr, n'est pas seul. Par exemple, on le voit avec Foucault, Lacan, Lévi-Strauss, dans un dessin qui a eu sa célébrité, qui la conserve peut-être encore un petit peu, d'un garçon qui s'appelait Maurice Henry. Et alors, il les montre tous les quatre, torse nu, en pagne de raffia, sous des cocotiers. Et il parle, bien sûr. C'est la tribu structuraliste. Foucault incarnait d'une manière exemplaire l'audace, la capacité de transgression que les époques de transition, les périodes de crise peuvent susciter. Mais si elle revêt chez lui un tour déclaré, je dirais presque flamboyant, militant, c'est que, à la différence de Barthes, il participait par tout le restant de sa personnalité, d'abord par son origine sociale et ensuite par sa trajectoire scolaire de la plus haute légitimité. Un deuxième trait toutefois, c'est amusant, les rapproches, c'est l'enseignement à l'étranger. Foucault a enseigné en Scandinavie et ils ne sont pas les seuls. Les plus brillants, les plus ouverts des intellectuels français de cette époque, je pense à des gens comme Jean-Pierre Richard, à René Girard qui nous a quittés il n'y a pas bien longtemps, à Jacques Guicharneau. S'expatrie peut-être parce qu'il trouve que l'air de la Sorbonne est assez peu respirable, assez poussiéreux, allons-y, assez provincial. Et donc il s'exile. Mais la réciproque a joué, c'est ce qui confère à cette époque ce charme que je continue de lui trouver. Rétrospectivement, des étrangers viennent en France. Grémas, dont j'ai parlé, Madame Kristeva, qui s'est exprimée ici même, en ce funeste mois de novembre. C'était vraiment une grande époque. Deux ou trois faits quand même, avant de conclure, sur la vulnérabilité que Barthes donne comme le fond de son caractère. Le fichage policier des homosexuels ne cesse qu'en 81. Barthes est mort. L'article 334 du Code pénal, pardonnez-moi ces références fastidieuses, qui a été promulgué en 1942 par l'État français sous Vichy, est repris à la Libération au numéro 331. Et il ne sera abrogé qu'en 1982. Enfin, vous étiez tous là, le mariage des couples de même sexe est adopté par le Parlement français le 23 avril 2013, il n'y a pas trois ans, et promulgué le 18 mai. Barthes était mort depuis longtemps lorsque ces dispositions réparatrices, apaisantes, ont été adoptées. Je résume. Une origine géographique exclusive depuis toujours de toute ambition. Une maladie très grave, récurrente, potentiellement mortelle. La scolarité hachée, inachevée, qui s'ensuit. Une carrière erratique, périphérique. Les persécutions qui visent l'homosexualité, quatre attributs négatifs qui, dans une conjoncture d'exception, changent de signe et procurent à Barthes une position de premier plan dans la vie intellectuelle de ce pays. Ce qu'il a appris à l'étranger et au sanatorium des linguistes du bloc soviétique et des trotskistes français explique le degré zéro de l'écriture et les mythologies. L'inachèvement de sa formation lui donne une liberté d'esprit qui lui permet de s'affranchir, je vais parler anglais, pardonnez-moi, du Kant universitaire. Par exemple, un professeur idéal typique de 1950 ne saurait s'en déroger, non, s'en déchoir, sinon s'intéresser au catch, à la DS19, c'est une bagnole de l'époque, et lire Paris Match. Il peut toujours lire Paris Match. Il ne saurait en parler dans le langage d'institution qui est le sien et qui est assorti exclusivement aux classiques éternels de la littérature. Un lecteur aux universités de Bucarest et d'Alexandrie, si. Parce qu'il a eu vent, là-bas, des méthodes transfrontalières de la linguistique structurale. Elle renverse les barrières habituelles entre les genres, par exemple la photographie, la publicité, le roman policier, le théâtre de Racine. Ce sont tous des systèmes de signes justiciables formellement. D'une même approche, je pense que tous les gens de ma génération se rappellent la révélation que furent les articles publiés par Barthes dans les premiers numéros d'une revue qui s'appelait Communication, qui était la revue du SECMA, Centre d'études des communications de masse. L'analyse structurale du récit à laquelle il a été déjà fait allusion, l'effet de réel, qui résulte purement et simplement d'une rupture de la connexion symbolique. Les significations que nous consommions avec les pâtes Panzani. Si le monde est fait pour partie de l'idée qu'on s'en fait. Alors nous n'étions plus les mêmes, soudain, puisque les objets dont ils se composent avaient brusquement changé de poids, de place, de portée, de nature. Et nous, qui habitions ce monde transfiguré, nous n'étions plus les mêmes non plus. Pour paraphraser le vieux Goethe, je dirais que ce temps fut celui de l'ivresse sans vin de la jeunesse. Mais ce fut aussi une fête de l'esprit à laquelle Barthes a activement contribué. Alors évidemment, le temps a passé, hélas, et ses audaces n'allaient pas sans danger. Si, par exemple, l'univers du sens a ses lois propres, s'il est régi, ce que n'ont cessé de rappeler tous ceux qui ont illuminé ce temps-là, s'il est régi par une nécessité interne. Que nous en coûte-t-il apparemment d'abdiquer toute liberté, de se regarder comme des effets de structure, l'agent, je cite Hugo maintenant, aveugle et sourd d'une causalité fermée à la conscience et parfaitement indépendante de la volonté. Le danger de l'hypostasie rôdait, je pense qu'aucun d'entre eux n'y a échappé, une formule de la même époque qui m'est restée, qui me reste toujours en travers de la gorge, la langue se parle toute seule. Bon. Dans la dernière partie de son œuvre, à partir des années 70, a également été dit, Barthes a repris ce qu'il avait gaiement passé par profits et pertes dans l'euphorie un peu scientiste de la période antérieure, à savoir les effets induit par un texte chez des lecteurs situés et datés qui, en retour, lui confèrent ou non une signification, assurent sa conservation ou, pour n'en être plus autrement affecté, ratifient sa disparition. Après l'objectivisme conquérant des débuts, on note une inflexion subjective, réfléchie, intime, de la pensée de Barthes. Elle a été brisée par sa mort prématurée, mais il nous a laissé de quoi nous occuper, et c'est ce dont je continue à lui être reconnaissant par-delà la durée. Voilà, j'en finis, je vous remercie.
Je crois que c'est au nom de tous que je vous remercie, Pierre Bergogneau, pour cette si belle évocation. Et je ne sais pas si nous pouvons avoir quelques réactions. Je me tourne vers Antoine Compagnon, qui est chez lui ici, qui connaît mieux les contraintes horaires de la maison que moi. Oui, alors je vais prendre une ou deux questions, parce que ce serait dommage de s'arrêter là. Et en même temps, c'est vrai qu'on a l'écho de votre parole dans les oreilles. Je me demande si je n'aurais pas ajouté une circonstance à celle que vous avez si bien mise en place. Vous y avez fait allusion d'ailleurs, c'est peut-être aussi, outre les quatre handicaps qui pouvaient, comme vous l'avez si bien montré, tourner à l'avantage de Barthes, parce que tout peut être reconverti en valeur. Il y a la dimension peut-être aussi, je n'irai pas jusqu'au mot pauvreté, encore oui, que ce soit presque le cas, mais de ce que Barthes commente en disant la gêne qui était à l'époque, dit-il, pire que la pauvreté, c'est-à-dire la quasi-pauvreté matérielle dont il n'a pratiquement jamais parlé, donc il a été d'une pudeur totale là-dessus, mais qui a saisi sa mère veuve, donc ayant quitté la province en délicatesse, dirons-nous, avec une grande partie de la famille, à cause de la suite de sa vie, et donc les années parisiennes où elle pratique des métiers comme la reliure, et puis ensuite le moment où Barthes subvient en fait à l'essentiel des besoins matériels est un moment de grande gêne matérielle qui là aussi se retourne certainement en productivité. Enfin, on ne va pas évoquer Balzac et ses dettes permanentes, mais il y a certainement eu aussi là une espèce d'extraordinaire aiguillon pour les très nombreuses commandes que Barthes acceptait. Antoine Compagnon en a parlé de manière très intéressante dans un colloque antérieur à Londres. Le nombre de textes qui, pour nous, sont maintenant des textes fondamentaux du corpus barthésien du côté de la critique, des essais critiques, sont souvent issus de commandes pour des collections de vulgarisation qui étaient des commandes largement alimentaires, mais auxquelles il a absolument su donner le ton, l'allure qu'il voulait leur donner.
J'aurais mis le Sud-Ouest, la misère relative de ces départements ruraux de la périphérie, où c'est toujours au prix de sacrifices et d'inquiétudes qu'on vit d'un jour sur l'autre, sans accéder à ce luxe extraordinaire que constitue, j'insiste là-dessus, la culture lettrée, qui restait toujours aux mains de l'aristocratie foncière, avant de passer plutôt entre les mains des bourgeoisies citadines.
C'est intéressant parce que vous donnez une autre dimension à ce thème si fréquent chez Roland Barthes de la crainte de l'imposture. C'est-à-dire que l'imposture voulant dire simplement est-ce que je suis bien légitime dans la situation que j'ai en tant que lettré, en tant que savant détenteur d'un savoir. Il y a là effectivement une dimension d'inquiétude permanente chez Barthes qu'il a exprimée tout au long de sa vie jusqu'à la fin. Est-ce que quelqu'un souhaiterait prendre la parole? Oui.